C'est l'animal en nous qui a besoin de dormir. Tandis qu'en contraire, quand on essaie de contempler, quand on essaie d'aimer, c'est le point de vue de notre différence spécifique, diaphora. Mais la différence spécifique, non plus prise du côté substantiel, mais du côté qualitatif, c'est-à-dire celle qui rejoint la fin. Et donc, ce qui caractérise l'être parfait. L'être parfait, c'est celui qui justement atteint sa fin. C'est en atteignant votre fin que vous êtes le plus qualitatif. Ça me semble très évident. Et c'est peut-être là où on doit saisir ce que c'est que la qualité. Alors je comprends qu'on dit diaphora. C'est pour ça que disposition de la substance, diaphora, nous fait comprendre les deux mouvements particuliers de la qualité. La qualité détermine, elle unifie toutes les parties de la substance, et la qualité nous oriente vers notre fin. Et la qualité, c'est le reflet de la fin dans un être. Quand un être est finalisé, il est ennobli. Sa noblesse, c'est cela. C'est pour ça que saint Thomas dit que la nobilitas, c'est la qualité. Et il aime de traduire, ça c'est pas aristotélicien, c'est néoplatonicien. N'est-ce pas? Mais c'est très beau d'avoir saisi ça. Que la nobilitas, la noblesse d'un être, eh bien, c'est justement sa qualité. Essayons maintenant de hiérarchiser les qualités. Ce sera le dernier aspect, si vous voulez. On a essayé de saisir qu'est-ce que c'est que la qualité. Nous voyons que la qualité est essentiellement multiple et diverse. C'est évident. Il y a une très grande multiplicité. Une très grande diversité, et c'est dans l'être humain où les qualités sont les plus diverses, encore plus que dans l'animal. C'est pas dans le chien que vous allez saisir toutes les qualités, c'est dans l'être humain. Et voyez, c'est intéressant, parce que quand Heidegger dit que c'est dans le Dasein, c'est dans l'être humain qu'on découvre l'être, c'est dans l'être humain qu'on découvre la qualité. Tu vois la confusion de l'être et de la qualité. Je crois très très fort que c'est l'être humain qui est le lieu des qualités. C'est l'être humain qui fait comprendre ce que c'est que la qualité, ce qui fait comprendre la noblesse. Et alors la noblesse de l'être humain, vous savez bien, la manière dont Aristote la caractérise, c'est d'être debout, capable d'être debout, de libérer deux pattes qui se transforment en deux mains. Et donc c'est la main qui est le signe de la noblesse de l'homme. Vous voyez, c'est très curieux, hein? Parce que c'est ça qui fait comprendre, justement, comment il se libère du sol et qu'il peut s'élever. Alors, c'est toute la station droite qui, pour lui, est significative. Dans de la figura, hein? pas plus, mais c'est de l'ordre du signe. Mais de l'ordre du signe, c'est évidemment que c'est très intéressant de voir que l'homme, c'est le lieu des qualités. Alors, dites-vous bien ça, vous êtes le lieu des qualités. Vous pouvez dire, regardez-moi, vous pouvez dire ça au singe. Regardez-moi et vous comprendrez ce que c'est que la qualité. Ne dites pas ça à un autre homme parce que ce n'est pas tout à fait humble de dire ça. Regardez-moi et vous comprendrez ce que c'est que la qualité. N'est-ce pas? Mais vous avez le droit de le dire au singe. À tous les animaux inférieurs à vous, donc à tous les autres animaux, vous avez le droit de dire, regardez l'homme et vous comprendrez ce que c'est que la qualité. Je ne comprends la qualité qu'au niveau de l'homme. Ça, ce serait aussi très intéressant pour voir comment la philosophie dépasse la biologie. Parce que la philosophie est attentive à ça. Une anthropologie doit être qualitative. Et c'est par la qualité qu'on montre que l'homme est l'animal supérieur et qu'il n'est plus animal. C'est par la qualité. Alors, quelle est la qualité qui montre le mieux cela ? Si j'ai compris ça, on voit que l'homme est le lieu de la qualité, vous comprenez tout de suite. La qualité première, c'est l'habitus de sagesse. Ah, ça, c'est extraordinaire, hein, de bien comprendre. L'habitus de sagesse, lexis. L'habitus de sagesse représente la qualité des qualités, puisque c'est habitus, c'est quelque chose qui vient s'ajouter, exis, qui vient s'ajouter au nous. Donc, c'est la qualité de la qualité. Le nous représente ce qu'il y a de plus noble dans l'être humain. On ne va pas l'oublier, quand saint Thomas compare l'intelligence et la volonté, il dit toujours que l'intelligence a une noblesse plus grande que la volonté. Côté nobilitas, donc du côté qualitatif. Un être est plus qualifié par son intelligence que par son amour. Par l'amour, il peut passer devant, dans la mesure où il aime un être qui est plus grand que lui. Mais au point de vue nobilitas, donc au point de vue qualité, c'est l'intelligence qui qualifie un être. Ça, on le sent très bien, du reste. On sent très bien que c'est l'intelligence qui est la diaphora. Alors là, vous retrouvez, vous voyez, la diaphora au sens le plus fort, ben oui, c'est nous. C'est l'intelligence qui fait la diaphora entre le singe et l'homme. Une fois qu'on a compris ça, on voit bien que c'est cette qualité particulière, c'est pas la différence spécifique de l'intelligence, c'est la qualité qui donne cette noblesse. Et alors la qualité de la qualité, c'est déjà très beau de voir, c'est l'habitus. Alors vous comprenez que l'habitus de sagesse, c'est la diaphora de l'homme sage comparativement à tous les autres. Ce que la Grèce avait très bien compris en comprenant ce que c'est que le sage. Ce que Max Scheler reprend en disant que ce qui caractérise justement la personne dans ce qu'elle a de plus particulier, c'est le sage. Mais la diaphora. Là, vous commencez à comprendre mieux ce que c'est que diaphora. Eh bien, c'est ce qui fait justement que l'homme a une dimension particulière. Si, vous voyez, la station droite est ce qui donne la noblesse de l'homme au niveau du cygne par rapport à tous les autres animaux qui sont dans la ligne horizontale, comprenez et transposez, l'habitus de sagesse permet à l'homme, à l'intelligence humaine, de se tenir debout. Ça, c'est particulièrement important quand il y a des cyclones. C'est le seul, le sage, qui demeure debout. Tous les autres s'aplatissent dans le sens du cyclone, n'est-ce pas ? Et ils sont arrachés dans le sens du cyclone, tandis que le sage demeure. Vous voyez ? Alors, on peut transposer, et c'est même très beau, de voir comment la figura de la station droite doit nous aider à comprendre cette noblesse intérieure, qui est le point de vue de l'habitus de sagesse, et qui nous fait regarder en haut. La station droite au point de vue de l'intelligence, c'est regarder en haut, c'est-à-dire la contemplation. Et c'est vrai que c'est la contemplation qui permet à l'homme d'être debout. Seul le contemplatif, au moment des cyclones, est debout. Tous les autres s'aplatissent. Ils ont cette possibilité d'avoir une intelligence qui cherche son bien. Quel est le bien de l'intelligence ? C'est la vérité. Une intelligence est qualifiée quand elle est vraie. C'est la vérité qui qualifie le nous. Et alors, vous comprenez bien que la qualité de la qualité, donc l'habitus de sagesse, c'est d'atteindre la vérité. Vous voyez la parenté entre le point de vue de la qualité et de la vérité. C'est vraiment la contemplation qui nous fait atteindre la vérité première, donc la vérité dans ce qu'elle est absolue. Alors, par l'habitus de sagesse, je suis en connaturalité avec cette vertu première, et mon intelligence est entièrement qualifiée. Mon intelligence est la plus qualifiée qui soit, donc l'habitus de sagesse me fait comprendre ce que c'est que la qualité. En définitive, comprenez bien. On ne veut pas dire qu'il faut ramener la qualité à la sagesse, mais je veux dire le premier analogué, l'analogué le plus parfait de la qualité, c'est l'habitus contemplatif, c'est l'habitus de sagesse. C'est vraiment l'analogué le plus parfait. Alors, essayons de comprendre, puisque nous avons dit deux dimensions dans la qualité, disposition, diaphora. Par l'habitude de sagesse, je vois tout de suite la diaphorme, je vois tout de suite la différence. C'est que le sage regarde vers la vérité première et le sage juge tout dans la lumière de la vérité première. Donc, il ne quitte jamais la vérité première. Il est capable de juger de tout dans la lumière de la vérité première. Et c'est pour ça que le sage est capable d'ordonner. Il ordonne. Il ordonne en fonction de la vérité première et dans la lumière de la vérité première. Voilà la diaphora. La diaphora, elle se traduit de cette manière-là. La différence de l'homme sage des autres, c'est qu'il a une tête de plus. Il a une tête dans le ciel, si vous voulez. Cette tête est entièrement illuminée. C'est vraiment ce qu'on voit dans le Parménide, les hommes à double tête qui sont dans le nuage et qui sont dans la mer de nuages. Lui, il atteint au-dessus. Il a quelque chose de plus. Il atteint la vérité première. Et il est toujours dans cette attitude. Il est stabilisé là. Hein. Ce n'est pas un moment, une éclair. Non, il est stabilisé dans cette vérité première. Et atteignant cette vérité première, alors il peut ordonner toutes choses. Et il ordonne toutes les choses qu'il puisse voir. Ça, c'est propre de la sagesse. Là, on voit la diaphora. Et la disposition, c'est que la sagesse va ordonner intérieurement toutes les capacités du nous, toutes les capacités de l'intelligence, tout ce que l'intelligence est capable de saisir, toutes les virtualités de l'intelligence, toutes les orientations de l'intelligence. Toutes les orientations de l'intelligence, c'est toute la diversité des sciences. Toute la diversité des sciences me montre combien l'intelligence est capable de s'orienter de multiples manières. Eh bien, l'habitus de sagesse va ordonner cette multiplicité et la ramener à l'unité. Donc vous voyez bien que dans l'habitus de sagesse, si j'essaie de le comprendre vraiment, je vois à la fois la diaphora et la diathésis, la différence et la disposition. Et je vois que c'est en effet le double aspect sous lequel je peux comprendre ce que c'est que cette habitude de sagesse. Il regarde la vérité première, et il regarde cette vérité première d'une manière telle qu'il se sert de la lumière de la vérité première pour ordonner tout. Le sage, c'est celui qui ordonne tout. L'habitude de sagesse ordonne. Diaphora. Et puis, elle ordonne le sujet. À côté de cette habitude de sagesse, comme second, qu'est-ce qu'il faut mettre? Je ne mets pas l'habitus mathématique en second. Je m'excuse auprès des mathématiciens, mais je ne dis pas que l'habitus mathématique est la seconde qualité. Non, je mets en seconde qualité, comme qualité, le point de vue qui n'est plus un habitus, et qui pourtant est quelque chose analogue à l'habitus. L'amour d'amitié. L'amour d'amitié est sûrement la seconde qualité. Alors c'est du côté de la volonté. Ça me semble très important, parce qu'on est en face de l'esprit. Hein. La diaphora de l'homme, c'est du côté spirituel. Eh bien, les deux aspects par où l'esprit se développe, c'est l'intelligence et la volonté. L'intelligence et le cœur. Je prends ici la volonté comme le cœur. Hein. La volonté, dans ce cas-là, de plus profond, sa capacité d'aimer. Eh bien, cette capacité d'aimer va se réaliser pleinement dans l'amour d'amitié. L'amour d'amitié va nouer ma volonté. Exactement comme l'habitus de sagesse noue le point de vue de l'intelligence. Et en nouant, unifie et ouvre. Hein. C'est un nœud qui n'est pas une borne. C'est un nœud qui rassemble la diversité, qui l'unifie et qui l'ouvre. Exactement comme l'amour d'amitié. L'amour d'amitié unifie mon cœur et l'ouvre. En aimant l'ami, si ce n'est pas la vérité première, c'est l'ami. En aimant l'ami, je suis capable d'aimer tous les hommes. C'est par l'ami que je m'ouvre à l'amour des hommes. C'est par l'ami que je comprends ce que c'est la philanthropie. La philanthropie coupée de l'amitié, ça devient quelque chose d'effrayant. Tandis que la philanthropie, dans la lumière de l'amour d'amitié, ah, c'est très beau, vous voyez, c'est que par l'ami, j'aime l'homme. On devrait pouvoir toujours dire à quelqu'un qui est notre ami, tu m'as fait comprendre ce que c'est que l'homme. Je dirais que pourquoi le Saint-Père insiste tellement sur l'homme, c'est parce que justement, il a une qualité prodigieuse d'amitié. Alors, il comprend ce que c'est que l'homme, à travers l'ami, vous voyez. Je crois qu'on pourrait faire ces analogies qui seraient intéressantes et qui nous aideraient à mieux comprendre comment la contemplation de la vérité première nous permet de tout ordonner, comment l'amour d'amitié nous permet de nous ouvrir à tous les hommes et de comprendre comment il y a un lien de fraternité à l'égard de tous les hommes. Mais c'est par l'amour d'amitié. Oui, s'il n'y avait plus le regard vers la sagesse, s'il n'y avait plus le regard vers la vérité première, le sage ne pourrait pas ordonner. Il n'y aurait plus la mesure. S'il n'y a pas l'amour d'amitié, alors on tombe dans quelque chose de fondamental. Je dois aimer tous les hommes parce qu'ils sont mes frères. Je dois. C'est plus l'amour. Oui. Tandis qu'au contraire, je découvre vraiment ce que c'est que l'amour à l'égard de tous les hommes à travers l'amour d'amitié. Alors, l'amour d'amitié, ce n'est pas au sens rigoureux exis. Ce n'est pas disposition. Vous voyez comme c'est curieux. Je suis en face donc quelque chose qui n'est plus au sens absolu exis. Je ne crois pas qu'on puisse dire que l'amour d'amitié est une exis. Ça présuppose, alors, toutes les vertus. L'amour d'amitié, pour être vraiment un amour d'amitié, donc connaître la stabilité, réclame les vertus. Alors, les vertus, mais les vertus morales. Je ne dis pas que les vertus morales arrivent ici tout de suite en second. Il faut dépasser les vertus morales pour atteindre l'amour d'amitié. Ce qui montre que l'amour d'amitié est au-delà de ce qu'on appelle la morale des vertus. C'est au-delà. C'est pour ça qu'un stoïcisme pur ne comprend plus ce que c'est que l'amour d'amitié. L'amour d'amitié tue. Je veux dire, le stoïcisme tue l'amour d'amitié. Alors, on aurait des quantités d'exemples, hein, que vous connaissez bien. Regardez toutes les éducations stoïciennes, alors vous comprendrez tout de suite comment l'amour d'amitié est supprimé. Et que c'est même l'ennemi numéro un. Parce que c'est justement où, alors à ce moment-là, on est quelque chose au-delà de la vertu. Et si on met quelque chose au-delà de la vertu, on est complètement fichu. Puisqu'on a une morale d'éducation qui veut atteindre la vertu comme un absolu. Et l'amour d'amitié montre que la vertu n'est pas un absolu. L'absolu, c'est l'ami. C'est la personne humaine que je respecte dans ce qu'elle a de plus profond. C'est la personne humaine qui devient mon bien. Exactement comme la vérité première est mon bien suprême, l'ami devient mon bien. Et vous retrouvez là, vous voyez, au niveau proprement qualitatif, les deux finalités. Et je crois que c'est par là que je découvre profondément comment, de fait, j'ai bien là les deux qualités particulières qui qualifient à la fois la volonté et pas le point de vue du nous. Troisième. J'essaie d'hiérarchiser. On va peut-être en oublier, ça n'a pas d'importance. Mais troisième qualité. Alors, vous voyez, ici, ça devient beaucoup plus difficile. Les deux premières, on est tout à fait d'accord. Faut-il mettre ici la vertu ? Je serais un peu tenté. Alors, je mettrai la vertu d'obéissance. Hein, mais je ne la mets pas. Je ne la mets pas, je la mets entre parenthèses, parce que ça, nous verrons. Nous verrons, je ne la mets pas maintenant. Mais la vertu. Je crois que la vertu, en effet, devient bien l'exis. Mais j'en suis pas sûr. Hein. J'en suis pas sûr. Elle est fondement d'amitié. Toute sa noblesse, c'est d'être fondement d'amitié. Elle est anchilla, servante de l'amitié. Au sens profond. Et c'est comme ça qu'elle maintient son aspect de finalité. La vertu ne finalise pas. Mais elle est quand même quelque chose de très grand, puisqu'elle permet l'amitié. Mais, tandis que je n'ai pas la même chose du côté d'habitus de sagesse. L'habitus de sagesse, parce que c'est un habitus, à une espèce d'autonomie beaucoup plus grande que l'amitié. Ça, c'est l'autonomie du contemplatif. Le contemplatif a une autonomie beaucoup plus grande. Pourquoi ? Parce que d'abord, il est parlé. Il est relatif à Dieu. Dieu me respecte plus que n'importe quel ami. Donc, parce qu'il me respecte plus, il me donne une autonomie beaucoup plus grande. Et c'est vrai que c'est l'habitus de sagesse qui me donne la souveraine autonomie. Et l'habitus de sagesse n'a pas de fondement comme l'amour d'amitié qui a les vertus. L'amour d'amitié est dépendant des vertus. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va plus du côté vertueux, il y a une répercussion. Tandis que je ne veux pas dire que l'habitus de sagesse a comme fondement les mathématiques. Je serai cartésien. Descartes met comme fondement d'habitus de sagesse les mathématiques. À la suite de Platon. Descartes-Platon. Alors vous voyez, ils font l'analogie. Alors à ce moment-là, on pourrait mettre qu'il y avait l'habitus de sagesse, l'habitus d'amitié, les mathématiques, les vertus. Je vais mettre 4, les mathématiques. Je crois que les mathématiques, c'est 4. Vous voyez, c'est déjà pas si mal. Hein? L'exis, la noblesse des mathématiques, c'est la noblesse des mathématiques. Par rapport au point de vue qualitatif, hein, comprenons bien, pas du côté de l'intelligence. Du côté de l'intelligence, elles arriveraient avant les vertus, mais du côté des qualités pour l'homme. Et je crois que les vertus passent avant, parce que les mathématiques ne sont pas fondement d'habitus de sagesse. Les mathématiques, et quand je prends les mathématiques, je prends avec les mathématiques tout ce qui va dépendre des mathématiques. Mais les mathématiques ont une noblesse unique comparativement à toutes les autres sciences. Toutes les autres sciences dépendant des mathématiques viennent après. Vous pouvez se demander, vous voyez, si la vertu d'obéissance est l'analogue aux mathématiques par rapport aux vertus. Là, c'est une autre question. Ce serait intéressant de voir ça. Ou est-ce que c'est la prudence ? Est-ce que c'est la prudence ? Ça, c'est parmi les vertus, je crois qu'au point de vue philosophique, il faut mettre la prudence. C'est celle qui vient qualifier l'intelligence pratique. Et les mathématiques qualifie l'intelligence qui est dans une intelligence ordonnée vers les possibles. Une intelligence qui est ordonnée vers l'ordre, l'harmonie. Cinquièmement, l'art. Alors, c'est là où une grosse discussion peut se faire. Est-ce que vous mettez l'art ici ou est-ce que vous mettez l'art ici? L'art, c'est quand même quelque chose de très grand. Est-ce que l'art vient après les mathématiques ou avant les mathématiques ? Eh bien, je dis que les mathématiques passent avant l'art. Au point de vue qualité. Au point de vue qualité, là. Il y a quelque chose de la noblesse des mathématiques qui est très unique et qui passe avant l'art. Je crois. Je dis je crois parce que c'est très délicat, vous comprenez ? C'est très délicat de hiérarchiser de cette manière-là. Hein. Mais c'est intéressant, on doit pouvoir hiérarchiser. Alors, et il faut hiérarchiser en fonction du sommet, c'est-à-dire en fonction de la sagesse. Si j'ai vraiment ça, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'habitus de sagesse est vraiment quelque chose de premier. Et là, je hiérarchise là, vous voyez, la hiérarchie des habitus. C'est la première chose qu'on doit faire. L'habitus lexis et la qualité des qualités. Donc, on peut mettre l'art. L'art vient, alors évidemment, ici, les beaux-arts avant tout, l'art au sens fort, puis ensuite, les arts d'application, l'art artisanat. L'art artisanat viendrait après, mais c'est contenu dans l'art. Alors, il y aurait cette espèce d'ordre dans laquelle, d'une certaine manière, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de hiérarchie dans l'art, puisque l'art est essentiellement, je ne dis pas anarchique, mais l'art n'a pas d'ordre au sens absolu. Est-ce que vous devez dire que la musique, c'est l'art premier ? Est-ce que vous devez dire que c'est l'art poétique ? Est-ce que vous devez dire que c'est l'art pictural ou l'art de la sculpture ? Ou est-ce que vous devez dire que c'est la danse ? Chacun va tirer de son côté. Chaque artiste tire de son côté, ça ne peut pas être autrement. C'est normal, hein ? C'est normal que chaque artiste dise « c'est mon art qui est premier ». Alors, on comprend que dans l'art, il n'y a plus de hiérarchie. il n'y a plus de hiérarchie. Et alors, à côté de l'art qui regarde proprement l'expression de beauté, donc ça, ça regarde le point de vue du beau. C'est le point de vue du beau. On est commandé par le juge. Et là, c'est ça qui serait très intéressant. Aristote dit que les mathématiques regardent le beau. Puis il y a l'autre beau qui regarde l'art. C'est dans le sens-là que je mets les mathématiques avant. Les mathématiques regardent le beau, c'est-à-dire l'harmonie. Une harmonie de tous les possibles. Et là, réalise cette harmonie dans telle ou telle matière. C'est une espèce d'incarnation. Alors, ça ne veut pas dire que les arts sont en dépendance des mathématiques. Il y a une certaine dépendance et en même temps, il y a une indépendance. Tous les artistes ne sont pas des mathématiciens. Mais voyez, je veux bien qu'ici, on discute. Hein. Je ne mets pas ça de façon impérative. Je dis que là, ça dépend comment on hiérarchise. Oui.
Est-ce qu'on ne pourra pas parler de la beauté au niveau de l'habitude de sagesse ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Est-ce qu'on ne pourra pas parler d'une certaine beauté au niveau de l'habitude de sagesse ?
Ah oui, mais c'est pas là, mais c'est second. C'est pas premier, vous voyez ? Je ne veux pas dire que l'habitude de sagesse est premièrement. Non, il y a une certaine. Parce qu'il y a un ordre. Il y a un ordre plus profond qu'harmonie ici. Dès qu'il y a ordre et harmonie, il y a beauté. Vous voyez, tout de suite. Mais le sage cherche la vérité. Il contemple la vérité. Il ne cherche pas vraiment la beauté. Tandis que l'artiste cherche la forme d'expression belle. Et le mathématicien cherche l'ordre, l'harmonie. Il cherche une certaine splendeur à l'égard des possibles. Et la vertu prudence, elle est vis-à-vis du bien. Dans ce sens-là, vous l'avez avant. Vous voyez, parce qu'il y a une diaphora qui est plus grande. L'habitus de prudence, je crois, comme vertu de prudence, est quelque chose qui est une noblesse qui vient immédiatement après. Donc vis-à-vis de ces trois, je serai assez net. Au point de vue de la diaphora, vous voyez, là, c'est beaucoup plus délicat. Mathématiques et art. C'est beaucoup plus délicat. Mais je crois qu'il y a dans les mathématiques une noblesse qui est très particulière et qu'il faut reconnaître qui est la noblesse d'une intelligence qui n'est ni pratique ni spéculative à l'état pur, qui est intermédiaire et qui est particulière. Mais alors, là vient après. Au point de vue qualitatif, je crois que la prudence passe avant. Ça, c'est net. Au point de vue qualitatif, c'est-à-dire au point de vue diaphora, au point de vue du bien, la fin. Du côté de la disposition, vous voyez, alors on pourrait discuter, mais comme c'est la diaphora qui commande tout, on peut mettre la prudence avant. Alors entre mathématiques et art, ça se discute. Il faut faire attention aux artistes, parce qu'ils sont très chatouilleux, très 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 chatouilleux, et les mathématiciens aussi. Alors il faut reconnaître ça, et je crois que il me semble, mais vous voyez, ce serait une très belle question disputée, ça. Très belle question disputée. Est-ce que les mathématiques passent avant l'art ? Est-ce que l'art passe avant les mathématiques ? Alors on mettrait d'un côté les poètes, et puis de l'autre côté les mathématiciens. Alors les mathématiciens l'emporteraient toujours grâce à leur raisonnement, et les poètes grâce à leur intuition. Alors il y aurait une chose intéressante à voir comme dialogue entre les deux. Parce que ce serait intéressant à voir. Dans les arts, il y a toute une famille. Donc là, je suis au niveau des habitus. Voilà la grande famille des habitus. Alors, c'est très important, ça, parce que toute l'éducation porte pour l'acquisition des habitus. Donc, c'est ça qui donne le fondement direct et immédiat de l'éducation. Si on comprend ce que c'est que l'éducation. L'éducation ne nous fait pas acquérir des dispositions, mais des habitudes. Donc toute l'éducation est ordonnée à l'acquisition des habitudes. Alors si on ne sait pas ce que c'est que les habitudes, vous comprenez, on ne sait plus ce que c'est qu'éduquer. On ne sait plus ce que c'est que vraiment éduquer au sens plénier, c'est-à-dire aussi instruire. L'enseignement et l'éducation sont en vue de l'acquisition des habitudes, sont donc ordonnées à rendre un être plus qualitatif. Permettre à un être d'être qualifié. C'est ça l'éducation. Être un être qualifié. Qualifié du côté de l'intelligence, qualifié du côté du cœur, et les deux se tenant toujours. Hein? Non, mais... hein? C'est Platon, ça. Le vieux Platon qui est toujours là, qui vient. On est obligé de dégringoler. Après les habitus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fondement des habitus, donc qui serait les puissants. C'est vrai que les puissances sont des qualités qui viennent immédiatement après les axis. Des qualités particulières qui permettent l'acquisition. Alors voyez, l'éducateur doit connaître ce que représentent les qualités d'un homme, d'un enfant, connaître ce que c'est que son intelligence et sa volonté pour les rendre qualifiables, pour leur permettre d'être justement, d'être ennoblis et d'être ennoblis par de leur instruction. Parce que si vous instruisez uniquement pour faire acquérir des méthodes, la méthode, elle n'est pas de l'ordre de la qualité. Tandis que l'exis, c'est de l'ordre de la qualité. L'habitus, c'est de l'ordre de la qualité. Alors, vous ferez des gens qui seront des virtuoses grâce à la méthode, mais qui ne seront pas des artistes. Vous ferez des gens qui seront très capables de s'en tirer dans des situations très difficiles, mais vous ne ferez pas des artistes. Vous ferez des virtuoses. La méthode ne qualifie pas directement. La méthode est du côté de l'outil. Elle est quelque chose d'extrinsèque. La qualité est immanente et elle ennoblit. Vous voyez, c'est pour ça que je ne parle pas de méthode, là. Je parle directement de ce qui qualifie. Alors, si vous regardez donc les puissances, vous avez évidemment les deux premières puissances, l'intelligence et la volonté. Et vous pouvez dire que du côté qualitatif, l'intelligence passe avant la volonté. Je dis bien du côté qualitatif. Parce qu'elle ennoblit plus. Elle est plus facile à saisir. C'est plus facile de saisir si quelqu'un est intelligent que s'il a un grand cœur. C'est plus difficile à saisir. C'est plus caché, le grand cœur. La capacité d'aimer. C'est quelque chose de plus caché. C'est en ce sens-là que je dis du côté noblesse, ça se voit moins. Ça se découvrira progressivement dans la vie. Vous avez ensuite les puissances du côté de la connaissance sensible et du côté des connaissances affectives. Continuerons ça la prochaine.